savez sans aucun doute. Quand on a une loi devant soi, on finit toujours par la transgresser, ou du moins à essayer de la transgresser. Et ceux parmi vous qui ont des enfants le savent très bien. Si vous leur dites, par exemple, « Ne rentrez pas après 8 heures », vous pouvez être sûr qu'un jour ils arriveront à 8h30 et un autre plus tard encore. Et aussi, lorsque nous nous imposons à nous-mêmes un interdit, par exemple celui de ne pas manger trop de chocolat ou trop de fromage, nous finissons toujours par le faire quand même et par transgresser ce que nous avions convenu avec nous-mêmes. Et puis, entre nous soit dit, un petit moment de culpabilité passé, on se sent très bien d'avoir osé. Alors Dieu, qui sait tout ou presque, quand il a dit à Adam, « Ne mange pas de cet arbre », il savait qu'un jour ou l'autre, Adam ne pourrait s'empêcher de le faire et de manger ce fruit délicieux du paradis. Je pense même que le serpent était superflu et qu'Adam aurait mangé de toute manière ce fruit. C'est à se demander si Dieu n'a pas placé intentionnellement cet arbre aux fruits magnifiques au milieu du jardin pour qu'un jour Adam et Ève goûte à ses fruits. Comme punition, en fait, disons plutôt comme conséquence de cet acte de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal, les humains sont chassés du paradis. Ils sortent de ce jardin bien protégé et sont jetés dans le vaste monde. Ça m'a fait penser à la sortie d'un utérus idéal qui oblige Adam et Ève de naître et de vivre dans un monde qui n'est pas parfait. Je crois qu'on peut affirmer, sans se tromper, que le récit de la chute, comme on l'appelle, est en réalité le récit de la véritable naissance du genre humain. À partir de là, l'homme et la femme savent qu'ils sont nus et ils voient qu'ils sont différents l'un de l'autre. Ils savent qu'un jour ils mourront et qu'ils ne sont donc pas les égaux de Dieu. Ils connaissent le bien et le mal. Ils peuvent dès lors vivre leurs existences en faisant des choix et en s'interrogeant sur le sens de la vie, de la mort, de l'amour et de la haine. Le récit de la chute est symbolique des questionnements essentiels de l'humanité. Pourquoi tout n'est pas parfait? Pourquoi y a-t-il la souffrance et la mort? Comment savoir qui nous sommes et comment vivre avec les autres? Et vous le savez, tout a commencé par une pomme. Ils ont croqué la pomme et ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ils se sont cachés devant Dieu. Lorsque nous pensons à cette histoire, nous avons tout de suite une idée très claire de la tentation humaine et de ce que Adam et Ève ont croqué. Et nous avons facilement un petit sourire à cause d'Adam et Ève, de la pomme et de ce qui est sous-entendu, la joie, le sexe et la mort. Pourtant, l'histoire d'Adam et Ève est une histoire sérieuse, car elle fonde notre situation d'êtres humains dans ce monde. Elle est magnifique, riche en images. Dans le texte original, vous l'avez entendu, on parle de fruits, pas de pommes. Mais on a tout de suite pensé que le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était une pomme. Cela vient du latin, où le fruit se dit pomum, où le mal se dit malum, et où la pomme se dit melum. Ainsi, on pouvait dire facilement « malum melum », c'est un joli jeu de mots. On met tout dans le même panier, le mal et la pomme, melum malum. Et ce symbole de la pomme est venu bien plus tard encore, grâce à Guillaume Tell, grâce à Isaac Newton, et récemment, grâce à une grande marque d'informatique. Ils ont croqué la pomme, et c'est ainsi qu'ils sont nés. Avant, ils avaient été créés. Maintenant, ils sont nés. Et s'ils naissent, ils doivent mourir. Parce qu'on ne peut pas naître sans mourir, et on ne peut pas mourir sans avoir été né. Cet arbre, la connaissance du bien et du mal, cet arbre et le fruit sont comme des sésames qui ouvrent le jardin d'Éden, qui permet à l'homme et à la femme d'en sortir et de naître. La porte s'ouvre, ils sont expulsés, comme un enfant à la naissance est expulsé du ventre de sa mère. Expulsé dans le monde avec ce sésame qu'est le fruit de la connaissance. Ils sont nés, ils sont vivants, ils sont nés. Et la première chose qu'ils voient, c'est qu'ils sont nus. N'allez pas me dire que l'histoire d'Adam et Ève n'est pas une histoire sexuelle. C'est une histoire sexuelle, ou plutôt une histoire de polarité homme-femme. Ils se découvrent nus, c'est-à-dire différents l'un de l'autre, l'homme de la femme de l'homme. Avant, ils ne devaient pas se cacher devant Dieu parce qu'ils avaient l'impression que tous étaient pareils, comme les animaux, qu'ils étaient tous pareils, comme les animaux et même comme Dieu. Là, ils découvrent qu'ils sont nus, qu'ils sont différents, qu'ils sont hommes et femmes. Ils découvrent l'attirance, ils découvrent la douleur, ils découvrent le projet, le travail, la vie, le mal, la mort. Et avec ça, ils reçoivent la connaissance du bien et du mal. Bien sûr, vous allez dire, ils ont désobéi, ils ont franchi l'interdit, ils ont fait quelque chose que Dieu leur avait prescrit de ne pas faire. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il mis cet arbre au milieu du jardin plutôt que dans un coin caché? Comme s'il avait secrètement espéré qu'un jour ça se passerait comme ça, et que l'homme et la femme s'ouvrent à la connaissance et qu'ils découvrent la liberté. C'est l'histoire de ce sésame qui nous est raconté dans la Genèse. Certains disent que c'est une faute impardonnable, un péché original. D'autres disent que c'est un choix. Mais peu importe, nous nous situons après. Après la chute, après qu'ils aient mangé ce fruit et reçu cette connaissance, bien sûr, on peut se demander ce qu'il y avait avant, mais que c'était les êtres humains sans la mort, sans la différence les uns des autres, sans connaître le bien et le mal, sans se situer face à Dieu. C'est en effet au moment où Adam et Ève prennent ce fruit, qu'ils deviennent véritablement les ancêtres de l'humanité. Ils découvrent la polarité, ils découvrent la mort, ils découvrent la nécessité de communiquer les uns avec les autres. Tout n'est pas figé, tout n'est pas enfermé, tout n'est pas donné. Les choses sont à découvrir. Connaître le bien et le mal. C'est le sésame de notre vie, à nous aussi. C'est ce que nous distingue des autres êtres vivants, connaître le bien et le mal. Savoir ce qui fait sens, savoir ce qui amène le malheur, connaître le respect et discerner la haine, la manipulation. Connaître le bien et le mal, c'est le sésame de nos vies. C'est ça qui nous permet d'avancer et qui fait de nous des hommes et des femmes. Il nous faut toujours apprendre à nouveau d'exercer cette connaissance. Même quand nous regardons la télévision ou qu'on nous dit ce qu'il faut penser, même lorsque tout le monde crie un slogan qui détruit les plus faibles, même lorsqu'on nous dit qu'il y a une nécessité dans le progrès, qu'il nous faut à nous garder la connaissance du bien et du mal et l'exercer. Apprendre à dire oui ou non, apprendre à faire des choix, être critique, apprendre à rencontrer l'autre, à communiquer, à partager, à ne pas tout avaler, à voter. La connaissance du bien et du mal, c'est un instrument contre le totalitarisme. C'est un instrument contre tout ce qui veut nous avaler, tout ce qui veut nous obliger d'avaler une opinion majoritaire. Le bien et le mal nous délivrent de nos enfermements. Nous ne baignons plus dans un monde de l'innocence. Nous sommes jetés dans la vie et devons choisir, opter, voter, prendre soin des petits et des fragiles et permettre que la vie continue. Même si parfois on cherche à nous endormir, à nous empêcher de réfléchir, de critiquer autour de soi, à partir du moment où ils ont mangé ce fruit, cette pomme, ce sésame, à partir du moment où ils ont mangé ce sésame, ils ont vu qu'ils étaient différents de Dieu. Ils ont vu que le contact avec Dieu n'était pas immédiat, c'est la vie. Le contact avec Dieu n'est pas toujours immédiat et facile. Nous nous en rendons compte, nous aussi, nous avons de la peine à entrer en lien avec Dieu, de comprendre, de se sentir compris. C'est dans cette perspective que nous pouvons nous réjouir que Jésus soit venu. Il a ouvert une brèche entre nous et Dieu. Grâce à lui, nous avons la possibilité de retrouver le lien avec Dieu, de comprendre, de parler, d'écouter, d'exercer notre connaissance du bien et du mal en référence avec lui. La vraie vie est une vie consciente, celle qui cherche le sésame, celle qui cherche le sens et pas juste une image. Alors, quand je pense à certaines connaissances virtuelles sur mon écran, ma tablette ou mon téléphone, je me dis, ce n'est pas la vraie vie, ce n'est pas du tout la vraie vie, ce n'est pas une vie consciente. Nous devons retrouver la conscience aussi face aux technologies nouvelles, retrouver la connaissance, retrouver cet arbre et ses racines, et rester dans les racines de cet arbre du bien et du mal, de nous interroger au-delà de nos écrans. À la fin du récit, Dieu a dit au serpent qu'il devra ramper, qu'il sera soumis et qu'une femme l'écrasera. Il dit à la femme qu'elle accouchera dans la douleur et à l'homme qu'il doit travailler pour vivre. Mais en même temps, Dieu prépare des habits magnifiques pour l'homme et la femme. Il ne les laisse pas juste aller avec leur douleur. Il prend soin d'eux. ses habits, c'est un peu notre terre. Cette terre qui nous est confiée et qui nous permet de vivre assez bien, il faut le dire. La vie reste parfois souffrance. Les rapports hommes-femmes sont toujours empreints de fragilité, de frustration et de désir. C'est la vie. Le sésame nous permet de nous situer debout dans cette vie, comme hommes, comme femmes, les uns face aux autres et face à Dieu. D'établir des relations d'adultes, d'hommes, de femmes avec Dieu. Quand ils ont mangé la pomme, ils étaient déjà deux. Quand ils en naient, ils étaient au moins deux. On ne peut pas naître seul, on ne peut pas vivre seul. Le nom de la femme, c'est Ève. Ça veut dire la vivante. Le nom de l'homme, c'est Adam. Ce mot est apparenté à la terre, ou plus précisément à la boue. C'est bien ce qui nous caractérise. Nous sommes de la boue. Mais avec le souffle que Dieu nous donne et les yeux dessillés, ouverts sur la vie et ses contours. Amen.